Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de l'Actuality Team sur PFM. C'est un plaisir de nous et de vous retrouver depuis une semaine pour vivre l'actualité avec notre regard de lycéen.
Parce que c'est notre projet !
Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Macron, le nouveau locataire de l'Élysée. Et nous sommes avec Simon.
Bonjour, bonjour à tous.
Clémence.
Coucou.
Alexis.
Salut.
Et Sarah.
Salut tout le monde.
Ok, bon, il n'y a pas de générique, c'est pas grave. C'est pas grave, la régie me fait des petits signes. Donc, première question. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ces élections ?
Alors...
C'est le bordel.
C'est le bordel.
Moi, j'ai un avis du monde des psys. Parce que entre le candidat qui s'est marié avec sa mère et celle qui a tué son père, c'est bien le Dipien comme élection.
Ok.
Qui n'a pas compris ?
Vous connaissez pas Oedipe aussi, pas de culture.
Non. Est-ce que tu peux t'expliquer, s'il te plaît ?
Si, Oedipe, c'est pas celui qui se tape sa mère et après il se crève.
Oui,
les
c'est
yeux.
Ça.
Qui a tué son père, ensuite il se tape sa mère.
En fait, c'est génial, puisqu'en fait, je pose une question, 2 minutes après, on est hors sujet. Génial. Non, ouais, est-ce que tu peux t'expliquer ?
Non, mais qui a tué son père dans les.
Le Pen qui a viré son père
du parti.
Ah, donc tu parlais de
Macron, je vous
explique. Oh, longue à la détente.
Ok, bah moi, ces élections. J'étais assez impatiente parce que c'était la première fois que je votais.
Ah.
Donc OK, vous en foutez mais
joyeux anniversaire.
Mais tout. Non mais genre c'était super important je trouve et en plus depuis 2002, c'était aussi la première fois que Le Pen avait pris autant d'importance.
Pour la première élection à laquelle tu votais, tu aurais pas préféré que ce soit une autre élection ?
Bah non, justement, celle-là elle était super importante pour la France comme pour le monde.
Donc ça, on va revenir. Est-ce que vous n'avez pas pensé que c'était un peu trop lourd, trop long, surtout ?
Pourquoi trop long ? Il y a toujours deux tours, hein ?
Ouais, il n'y a jamais deux primaires aussi. Surtout quand les deux candidats qui ont gagné la primaire, ils ne sont pas au deuxième tour. Enfin,
ouais,
au premier tour, plutôt.
Ouais, c'est vrai que en fait, on a un peu voulu copier les Américains en faisant des primaires. Je trouve que les primaires, c'est plus démocratique, parce que ça permet au peuple de choisir son candidat. Mais aussi, ça fragilise les candidats qui ont participé aux primaires, parce que comme tu l'as dit, aucun des candidats qui avait gagné la primaire n'était au premier tour.
Après, au deuxième. Ils étaient
non.
Au premier.
Bah non, celui qui avait gagné à...
Bah non, Hamon et...
Ouais, ils étaient au premier,
pas
au deuxième. Ouais. Voilà. Non mais le truc avec les primaires, c'est censé rassembler tout un parti, rassembler les mêmes idées. Mais vu qu'ils passent toute leur campagne de primaire à se défoncer les uns des autres en disant qu'ils sont différents, etc., ça divise le parti.
Ouais, ça fragilise.
Ce qui fait que par exemple, Hamon, normalement des électeurs PS, il y a plus que 6%. Et là, c'est justement, je crois que c'est les primaires qui l'ont
foiré. Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec Hamon. C'est vrai que je me dis...
Justement.
Hamon, le truc, c'est que dans le parti, dans le PS, il n'y avait que lui qui avait ces idées-là. Et du coup, tous les autres, par exemple Valls, etc., qui ont demandé à voter pour quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans le projet de Hamon, tous les électeurs de Valls, qui faisaient quand même une bonne moitié du PS, ils sont partis vers Macron.
Mais justement, si vous deviez changer quelque chose, ça serait quoi dans cette élection ?
Les candidats.
Les candidats. Non, le système, peut-être, non ? Vous, dans 5 ans, vous voudriez que ça soit à peu près le même genre d'élection ?
Moi, j'ai trouvé ça bien déjà qu'ils fassent un débat à 11, parce que c'est plus démocratique, parce qu'au départ, ils avaient prévu de faire un débat pas avec les 11 candidats sur TF1. Et vu qu'il y a Dupont-Aignan qui est parti en disant « Je ne reviendrai que quand il y aura un débat avec tout le monde », j'ai trouvé ça bien. Donc, le système me convient.
On avait déjà parlé de Nicolas Dupont-Aignan. Oh, désolé, Alexis. On avait déjà parlé dans une précédente émission sur les primaires.
Présidente élection.
Précédente. Oh
point, 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 point.
Vas-y, dis ton avis, Alexis.
Ouais, j'ai oublié, moi.
Ah bon, c'est pas grave, alors on va passer vite fait à la prochaine question parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Quels enjeux ont ces élections pour notre pays d'abord ?
Ah oui, j'ai trouvé ce que je voulais dire.
Ah, mais.
Ouais.
Il a pas si lourd, lui.
Juste que là, cette élection, j'ai trouvé que par rapport aux élections précédentes, il y avait beaucoup trop de scandales. Par exemple, il y avait. Là, c'était vraiment tout le monde plongeait lors de cette élection. Il n'y avait personne qui remontait. C'était que des gens qui coulaient à cause des nouvelles affaires qui sortaient. Et ça, c'est vraiment un truc qui ne devrait pas arriver.
Couler, il n'a pas coulé tant que ça, Fillon. Hein.
En fait, il a juste déchiré son parti.
Non, mais je ne comprends pas pourquoi il était encore candidat. Il y a des pays, ça aurait été même pas envisageable. Je veux dire qu'un président qui fait des magouilles pareilles puisse encore. Qu'un candidat puisse encore concourir pour la présidence.
Ouais, mais c'est système français.
Alors du coup, quels enjeux pour le pays ont ces élections? Enjeux plutôt importants, ça, on parle plutôt du rôle du président.
Quand on sait qu'il y avait Le Pen au deuxième tour, on peut parler d'enjeux. Mais après, les enjeux sont toujours les mêmes, j'imagine, à chaque élection. C'est après, je pense que les véritables enjeux se jouent lors des législatives. Parce qu'au final, si c'est pas le même parti qui est majoritaire, qui est majoritairement élu après, le président, il sera bloqué.
Ouais, voilà, comme Macron ça, pourra rien faire, il pourra pas voter de loi, il pourra pas les faire passer anticonstitutionnellement.
Donc au final, un président qui n'est pas soutenu par l'Assemblée, il sert à rien, quoi. Il est bloqué pour
mais
tout ce qu'il fait.
C'est vrai qu'après, elles étaient quand même importantes, parce que c'était la première fois quand même qu'on avait ni un parti de gauche, ni un parti de droite au deuxième tour. Je veux dire, c'est historique, quoi, qu'on
un
se retrouve.
Un extrême et un rien.
Oui, voilà, et alors moi j'avais super peur qu'au deuxième tour, on se retrouve avec Mélenchon-Marine, parce que là, extrême gauche, extrême droite,
ceux qui ont bien progressé quand même.
Ouais, voilà, donc c'est vrai que moi j'ai trouvé ça super important pour le pays, parce que ça, c'était un peu le moment de montrer si on voulait vraiment sortir de l'Europe ou pas. Je pense que c'était surtout ça, le choix du deuxième tour, et aussi de montrer si on était vraiment contre les étrangers, ou si on arrivait un peu à faire ressortir notre patriotisme et notre fraternité avec les gens.
Merci Clémence. Simon, est-ce que tu as les résultats des présidences?
Oui, Emmanuel Macron a été élu avec 66,1% et donc plus de 20 millions de personnes qui ont voté pour lui, et Marine Le Pen a fait 33,9% et plus de 10 millions de personnes qui ont voté pour elle.
Quel sentiment vous avez à l'affiche de ces résultats?
Soulagement.
Soulagement.
Soulagement, et par contre, belle progression du FN. Ouais, par exemple, je sais plus c'était quoi les résultats avec Jean-Marie Le Pen, mais c'était deux fois moins, quoi.
Simon, t'as pas donné le pourcentage de vote blanc?
Ça fait à peu près 9%.
Ouais. C'était que 9%?
Ouais, mais
moi, il m'a semblé que c'était beaucoup plus.
C'était une dizaine de pourcents de vote blanc ou nul, mais plus de 25% d'abstention, environ 25% d'abstention.
Après, c'est vrai que j'ai vu des statistiques sur la participation aux différentes élections, et moi, je pensais que justement, tout le monde allait se bouger pour venir donner son avis à cette élection, parce que pour moi, elle était vraiment capitale dans l'histoire de la France, et en fait, non. Il n'y a pas tellement plus de participation que d'habitude.
Non, il y a même plus d'abstention.
Il y en avait même moins que par rapport au deuxième tour. Il y avait plus de participation qu'au deuxième, mais globalement les deux tours, il y en avait moins que pour Sarko et Hollande.
C'est quand même pas très étonnant en soi les résultats, hein, parce que là, j'imagine que le vote par dépit, il a dû être à son apogée, hein, avec Le Pen dans le deuxième tour.
Et Macron aussi, il y a plein de monde qui voulait pas voter pour Macron.
C'est vrai.
Ça bloquait aussi.
Mais je pense que qu'il y a quand même plus de personnes qui voteraient par dépit contre Le Pen que par dépit contre Macron. Et après, ces personnes-là, ça peut se retrouver dans le taux d'abstention ou dans le taux
de vote. Souvent, on dit qu'au premier tour, on vote par choix et qu'au deuxième tour, on vote par élimination.
Oui, c'est plutôt ça. Donc au final, je trouve pas ça super étonnant. Après, effectivement, le FN, il a quand même bien avancé. Déjà, le fait qu'il passe au deuxième tour, ça révèle quand même, on va dire, le mécontentement des Français et le fait qu'ils veulent du changement aussi.
Peut-être ces électeurs se bougeront pour les élections législatives. D'ailleurs, est-ce qu'elles vous font peur, ces élections législatives?
Je pense que Sarah a raison. Les législatives, ça va un peu nous permettre de savoir si Macron va pouvoir faire ce qu'il veut ou pas, quoi.
Ouais, surtout qu'il a quand même moins de représentants que la majorité des partis.
Son parti, il y a un an, il n'existait pas, quoi.
Son parti, les représentants lors des législatives ne sont pas des politiques.
Je pense
en
que
très
le,
grande partie.
Le plus inquiétant là, c'est que si le parti qui est voté, c'est pas celui de Macron, il risque d'être beaucoup bloqué. Et si Macron réussit pas et fait rien progresser,
ça va être encore pire
au
prochain.
Pendant son mandat, les prochaines élections, je pense que le FN, il a encore beaucoup plus de chances que là, hein, parce que si Macron il n'y arrive pas là...
Après, ça m'étonnerait sincèrement que le parti de Macron soit majoritaire aux élections législatives.
Après, je pense que tu peux être étonné, parce que moi j'ai trouvé ça super bien pour les législatives qu'il ait mis une totale parité, déjà, c'est rare. Moitié femme, moitié homme, et il y a au moins, je crois, c'est 50% de personnes qui n'ont jamais fait de politique et qui viennent de la société, comme nous, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça super bien, parce que je pense que, du coup, cette personne-là peut donner un renouveau, du dynamisme. Je crois qu'il y avait, j'avais entendu, 9 SDF, 2 ou 3 retraités, quelques étudiants. J'ai trouvé ça super bien, moi.
Et en même temps, du coup, par rapport à ça, parce que moi je trouve ça vraiment super aussi, pour moi ça serait l'idéal dans la politique en fait.
Oui, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes têtes et pas que des vieux.
C'est ça. Et ce que je trouve étonnant du coup, c'est que les gens n'aiment pas plus que ça Macron. Parce qu'au final, on pourrait dire que c'est ce que les gens réclament depuis des années. C'est un gars qui connaît un peu je dirais un peu plus notre milieu que certains, mais c'est aussi une nouvelle tête parce qu'on ne l'a pas vu dans la politique avant.
Après, on lui reproche quand même pas mal de choses. Déjà, d'être un peu l'héritier d'Hollande, ce qui lui a pas mal été reproché.
Oui, mais il a quitté son gouvernement, c'est qu'il n'était pas d'accord avec
d'être
lui.
Et d'être quand même qualifié d'économiste.
Ouais. Il a fait banquier. Ouais,
c'est ça le problème, c'est son ancien banquier, etc., de Rothschild, c'est ça ?
Ouais.
Mm-hmm. Ouais. Qui l'a plombé, parce que les gens, quand tu penses économiste, tu ne penses pas au côté social, au côté humain, etc.
Il va aider les riches.
Le problème avec ça, c'est que, enfin, moi, je vois pas en quoi ça dérange les gens non plus, parce que quand on est économiste, on sait comment ça marche l'économie, et c'est quand même la moindre des choses pour un président de gérer l'économie de son pays.
Et je pense qu'aussi, le fait qu'il ait travaillé dans une banque, bah, je veux dire, moi, ça me choque pas non plus. Et après, tous les présidents doivent au moins avoir fait l'ENA ou alors Sciences Po. Je crois que j'ai entendu qu'il y avait 6 présidents sur 9 qui ont fait Sciences Po. Donc après, il faut quand même se cultiver. Donc je comprends qu'après des longues études, il ait été pris dans une grande banque.
Après, je pense que au-delà de son côté économiste, ça a quand même l'air d'être un gars ouvert d'esprit et investi dans ce qu'il fait. Quand on voit qu'il était banquier dans quelle banque ?
Rothschild.
Voilà. Et ben, quand on voit le salaire qu'il gagnait, le salaire qu'il a perdu par rapport quand il est passé conseiller d'Hollande, et le salaire qu'il a encore perdu totalement quand il a démissionné pour faire les présidentielles et défendre son projet.
J'ai trouvé ça bien qu'il démissionne d'ailleurs pour pas faire de cumul de mandat.
Bah ouais, c'est ça. Enfin, on voit quand même que c'est un gars qui est carrément investi dans ce qu'il fait et qui ne pense pas qu'à l'argent, quoi. Ouais. Puisque ça se voit dans son histoire personnelle.
C'est un symbole de ne pas suivre la politique d'Hollande en sortant de son gouvernement. Après, on a parlé de la montée de Marine Le Pen, mais on a aussi remarqué la montée de Mélenchon. Est-ce que vous pensez qu'il fera un très bon score, même peut-être mieux que Marine Le Pen aux législatives ?
Moi, ça m'étonnerait. Parce que, ouais, Le Pen, dans tous les cas, les militants FN qui ont voté là pour elle pendant les élections présidentielles vont très certainement voter pour elle aux législatives. Après, Mélenchon n'a pas pris position pour le second tour. C'est fait qu'il n'a pas dit, contrairement à en 2002, de voter contre les Le Pen. Et du coup, certains votants Le Pen peuvent se reporter vers l'autre extrême. Ceux qui sont... ceux qu'on fait comme...
Tu crois vraiment qu'il y a des gens, des électeurs de Mélenchon qui sont allés voter Le Pen ? Si passer de l'extrême gauche à l'extrême droite, faut pas tenir trop à ses idées.
C'est
un
problème de cohérence. Non,
c'est le truc, c'est les extrêmes toujours qui regroupent... qui attirent quand même les...
Les anti-systèmes.
Ouais, voilà, les mécontents.
Ouais, mais ils sont quand même, pour leurs idées, ils sont complètement opposés. Je veux dire, Mélenchon, il est plutôt pour aider les gens, pour l'intégration des étrangers et
tout. Ouais, mais c'est les deux choses qu'on n'a pas encore testées et qui peut-être marcheront. C'est ça qui rend
dans la tête. On a déjà essayé la gauche, on a déjà essayé la droite.
Ouais, on va essayer les deux extrêmes.
Bah, là, ils ont essayé le centre.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. La jeunesse parle avec l'actualité. Alors que je vous propose de faire une courte pause musicale, ne quittez pas. On va parler du nouveau locataire de l'Élysée juste après la pause. L'actualité revient tout de suite après.
Et nous écoutons les Pentatonix et Toby Hall chanter Black and White.
A tout de suite sur PFM.
Far from colorblind, and I was so sure someday I would find the crack between the black and white, a fact that might ignite a change of mind. But they said,
who do you think you are? What do you think you'll be? Why you run around town thinking all these crazy things that ain't true? So just know your place, just wasn't meant to be. Try and you'll get a taste of good reality.
Fast forward, but
Bienvenue dans l'émission de l'actualité sur PFM partie 2. C'est un plaisir de vous et de nous retrouver depuis une semaine pour vivre l'actualité avec bien sûr notre regard de lycéen. Aujourd'hui, on parle du nouveau locataire de l'Élysée avec Sarah.
Coucou.
D'accord. Alexis.
Salut.
Clémence.
Coucou.
Et Simon.
Bonjour, bonjour à tous.
Et donc, je propose d'abord d'enchaîner avec une question sur les enjeux du monde qu'ont ces élections, qu'ont eu ces élections. Alors, quels enjeux ?
Bah moi je pense que c'était super important parce qu'un peu tous les pays d'Europe déjà avaient peur que Marine passe. Et même aux États-Unis, j'ai vu une petite vidéo, je trouvais ça super intéressant, de Obama qui donnait son soutien à Emmanuel Macron en le soutenant et en essayant qu'il passe pour le deuxième tour. Et après j'ai même vu un gars en Grèce qui soutenait aussi Emmanuel Macron parce qu'il disait que pendant la crise il l'avait aidé. Donc moi j'ai trouvé ça... Je pense qu'en fait la France était regardée par l'Europe mais aussi le monde.
L'Europe et certains à part étaient soutenus en grande majorité à l'international, sauf dans les pays où l'extrême droite est déjà passée. Je crois qu'il y a deux pays européens où c'est le cas, je me rappelle plus desquels, mais il y a déjà des partis d'extrême droite qui sont arrivés au pouvoir et ceux-là supportaient Marine Le Pen forcément.
Moi, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir, ce que je vais dire. Hein, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire qui s'est passée avec des hackers des États-Unis.
Oui.
Vous avez entendu parler ? Donc, je le rappelle pour les auditeurs, c'est des hackers aux États-Unis qui ont été publiés publiquement sur les réseaux sociaux Internet des messages de Macron, en fait, qui s'avéraient faux. Mais en fait, ils l'ont publié juste avant le time-out imposé pour les élections. Et juste après, donc c'est-à-dire juste avant le time-out, il y a le bras droit de Marine Le Pen qui a été annoncé, tous ces cachotteries, etc. Donc, et ces hackers avaient un rapport avec Trump, hein, au service de Trump ou quelque
donc
chose comme ça.
Donc tu penses que Poutine, Trump et Marine, il y a.
Ouais, moi je pense
un
que
triangle.
Le beau triangle là. Ouais, je pense qu'il y a des gros complots derrière tout ça.
Trump soutenait officiellement Marine Le Pen.
Oui, mais c'est vrai que déjà, moi, je m'en doutais qu'il allait y avoir des attentats avant les tours. Et avant le premier tour, il y a eu les policiers de tuer à Paris. Et du coup, c'est vrai que moi, je m'en doutais. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ça arrangerait aussi Daesh que Marine, elle passe, parce qu'elle va foutre le brin avec les étrangers. Donc, les étrangers seront encore plus mécontents par rapport aux réactions xénophobes des Français. Donc, ils voudront encore plus foutre le brin. Donc je pense que peut-être tout est lié entre les extrêmes.
Oh, c'est compliqué la politique.
Le complot.
Merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à faire son programme ?
Macron ?
Non, non, pas non. Bah si.
Non, mais non. Poutou. Poutou, ouais, je crois qu'il va bien. Hein.
Bah, c'est comme on disait tout à l'heure, ça dépend des législatives. S'il est soutenu par son parti à l'Assemblée, oui, forcément, et qu'il arrivera à faire son programme.
Et tu penses pas que les manifestations qui sont en train de s'organiser un peu partout en France vont bloquer ? D'ailleurs, vous êtes pour ou contre ces manifestations ?
Des manifestations.
D'accord.
Ouais, mais
non, mais
je suis une touriste, je rentre du Brésil.
Non, pas cette fois-là.
Non, mais dès le soir de son élection, il y a eu des organisations...
Anti-Macron
pour, Oui, anti-Macron.
Ouais, en même temps, je pense qu'il y en aurait eu aussi des manifestations si Le Pen était passé. Hein. Oui. Moi-même, je pense que j'aurais été manifestée, donc...
Oui, mais vous êtes pour ou contre ces manifestations qui
sont
contre...
On peut pas être contre une manifestation, on peut pas...
Déjà, on doit être
contre l'idée qu'elle propose cette manifestation, j'arrive pas à trouver le verbe.
Moi, je pense qu'il faut laisser... Au départ, j'étais pas pour Macron, mais je pense que c'est important de voir ce qu'il veut faire, parce qu'il a l'air de vouloir changer les choses, et donc j'attends de voir.
Mais vous trouvez que ces manifestations, ils sont en même temps démocratiques. Mais ça fait partie de la démocratie que de descendre dans la rue pour manifester. Mais vous pensez pas aussi qu'elles bloquent un peu, que ces manifestations vont le bloquer pour qu'il fasse son programme.
Oui et non, parce que en même temps, je pense que Macron, je pense que vous avez écouté ses discours, il disait quand même qu'il allait respecter son programme pour les gens qui l'avaient élu, parce que s'il avait été élu, c'est que les gens voulaient son programme. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ça bloque son programme. Après, Il est tout à fait possible, et moi je trouverais ça normal, que les manifestations et la vie des personnes qui manifestent soient pris en compte.
Je pense qu'il va les prendre en compte, de toute façon il n'aura pas le choix.
Effectivement, je pense que, mais c'est important de la part d'un président d'écouter tout le monde, ceux qui ont voté pour lui, donc pour son programme, mais aussi ceux qui n'en veulent pas et qui du coup ont manifesté.
Justement, moi j'ai trouvé ça bien, le soir de son élection, il a fait, tu sais, quand il a fait son discours au Louvre, il a aussi parlé des partisans de Marine Le Pen, et il a dit, moi pendant mon mandat, je veux leur donner une raison de plus voter pour elle, et j'ai trouvé ça bien en fait, qui parle aussi pas que à ses électeurs justement.
Oui, c'est, il écoute vraiment l'ensemble de la population.
Donc je pense que peut-être que ces manifestations vont lui rappeler qu'il fait pas ce qu'il veut non plus.
Donc c'est plutôt positif. D'ailleurs, le discours au Louvre, vous l'avez trouvé comment, le nouveau président Macron a copié un peu les faits et gestes de Mitterrand?
Bah, le long manteau, la longue marche, c'est vrai que ça nous rappelait Mitterrand.
La petite pyramide du Louvre derrière.
Oui.
La petite, ouais.
Moi, j'ai trouvé ça super classe.
Et il y avait sa femme, Brigitte Macron, avec lui.
Le petit bisou sur la main.
Ah.
Et il lui a refait le bisou hier.
Ouais, on est content de l'apprendre, tiens. On est content de l'apprendre. Merci, Clémence. Elle ne sera pas venue pour rien. Non, je plaisante. Non, est-ce que vous pensez qu'il faut s'en méfier de Madame Macron?
Pourquoi faudrait se méfier d'elle? Elle est prof de français.
Ah bah non, mais c'est parce qu'elle a beaucoup soutenu son mari, c'est notamment grâce à elle.
C'est sa femme.
Bah oui, et donc du coup, elle a de l'influence sur son mari. Est-ce qu'il faudrait pas s'en méfier?
Moi, je pense pas, pas spécialement, parce que c'est pas quelqu'un qui a non plus des ambitions. Je dirais pas vraiment des ambitions de pouvoir. Elle est pas, c'est pas quelqu'un qui cherche à avoir une influence non plus sur ce qui se passe. Enfin,
après, je pense qu'elle l'influence quand même, mais elle l'a déjà influencé avant. Au moment où il décidait son programme, elle a dû donner son avis.
Forcément, je pense qu'elle défend simplement ses idées auprès de son mari, ce qui est normal et ce qui se passe dans tous les couples. Donc du coup,
je pense qu'ils ont déjà choisi à deux, en fait.
Personnellement, je me méfie pas d'elle.
Et à l'étranger, elle a beaucoup plus d'influence, en tout cas on parle beaucoup plus d'elle que de son mari.
Sérieux ?
Que d'Emmanuel Macron par rapport. Tout par rapport à son style, à sa prestance, etc. Par exemple, en Grande-Bretagne... Ouais. Elle a fait la une de presque tous les journaux.
C'est vrai qu'elle est issue d'une famille plus démo... Enfin, comment on dit Non,
bourgeoise.
Mais plus bourgeoise. Et qu'elle a une prestance, c'est vrai qu'elle apporte le côté chic à Emmanuel Macron, quoi.
Ouais, par exemple, juste en Angleterre, par exemple, ils adorent ses tenues.
J'en reviens pas.
Elle a apparu plus souvent que son mari dans les journaux. C'est vraiment... elle a vraiment de l'influence à l'étranger.
Après, moi, je pense pas... honnêtement, je pense pas que ça soit... qu'il faudrait se méfier, même pour cette raison. Hein, je trouve pas vraiment... ça fait un peu people, hein. Voilà, ça fait un peu commère entre les pays. Oh, regardez comment elle s'habille. Non, mais je pense pas vraiment qu'il faudrait se méfier d'elle.
Les Anglais, ils aiment bien ça.
Ouais, ils aiment bien le chic, les Anglais.
Merci beaucoup pour ces réponses.
Oh, le cliché.
Mais c'est toi le cliché.
Mais c'est la jeunesse qui parle. C'est la jeunesse qui parle avec l'actuality team. Alors je vous propose de refaire une courte pause musicale. Ne quittez pas, on va parler du nouveau locataire de l'Elysée. Si tu peux éviter de frapper Alexis. Ah bah voilà, ils se frappent entre eux. C'est génial. Donc on va attendre la pause, hein, s'il vous plaît. Donc l'actuality team revient tout de suite après.
Et on écoute Closer des Chainsmokers.
Voilà, à tout de suite sur PFM. Ah, on entend la musique. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room. Back in Boulder, we ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look out.
as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission de l'Actuality Team sur PFM partie 3. C'est un plaisir de nous et de vous retrouver depuis une semaine, voilà, pour vivre l'actualité avec notre regard de lycéen, blabla, comme d'habitude. Et donc aujourd'hui,
c'était
on va parler.
Chouchou.
Voilà, c'était mon entrée. Et donc aujourd'hui, on va parler du nouveau locataire de l'Élysée, le président Macron. Et nous sommes avec Sarah.
Encore.
Alexis.
Salut.
Clémence.
Coucou.
Et Simon.
Bonjour, bonjour à tous.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il m'a frappé.
Oh, c'est pas fini. Ils se sont. Je vous jure, des enfants.
T'inquiète pas, ça repousse.
D'accord, merci Alexis. Et donc aujourd'hui, partie 3 particulière, puisque j'ai décrypté un peu.
Partie 3 particulière. Oh,
bravo.
Je cherche partenaire particulier.
Alors, arrivé en fin d'émission, ils sont un peu dissipés, nos chroniqueurs. Donc,
participer.
Oh.
Je veux plus dire un mot. Je ne veux plus dire un mot. Et donc,
vous voulez pas recommencer ?
Et donc j'ai décrypté le premier discours d'Emmanuel Macron en tant que président de la République française. Et donc il avait fait à l'Élysée le dimanche 14 mai. Et donc d'abord,
ça
on va écouter
le discours d'investiture.
Voilà le discours d'investiture. Merci Clémence. On va écouter.
Ou de passation.
On va. Merci beaucoup Clémence. Et donc on va écouter un premier extrait de son discours où est-ce qu'il a voulu se montrer plutôt rassembleur des Français.
La responsabilité qu'ils m'ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Voilà pourquoi mon mandat sera guidé par deux exigences. La première sera de rendre aux Français cette confiance en eux, depuis trop longtemps affaiblie. Je convaincrai nos compatriotes que la puissance de la France n'est pas déclinante, mais que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. Car le monde attend de nous que nous soyons forts, solides et clairvoyants. La mission de la France dans le monde est éminente. Nous prendrons toutes nos responsabilités
pour apporter, chaque fois que cela sera nécessaire, une réponse pertinente aux grandes crises contemporaines. Qu'il s'agisse de la crise migratoire, du défi climatique, des dérives autoritaires, des excès du capitalisme mondial et bien sûr du terrorisme, plus rien désormais ne frappe les uns en épargnant les autres. Nous sommes tous interdépendants. Nous sommes tous voisins.
Voilà donc Emmanuel Macron qui s'est montré un peu mondialiste. Est-ce qu'il a raison de faire ça, de dire la France et...
Oui.
Bah oui, totalement.
Oui.
Bah moi je pense
après,
que...
Après ça dépend du point de vue.
Ça dépend du point de vue. Quel point de vue?
Bah point de vue de tout le monde.
Bah de le tien.
De quoi? Bah moi j'ai pas de point de vue, c'est mon objectif.
Mais oui Alexis.
Non, moi je trouve ça bien. C'est génial qu'il parle de l'Europe, qu'il parle du monde. Je trouve qu'on en a besoin et que bah, sans l'Europe on n'est rien. Enfin, c'est vrai qu'on est quand même un tout petit pays. Et que le fait de voir à l'échelle monde et de parler de l'influence de la France sur le monde, je trouve ça bien.
Mais après, d'un côté il rassemble et d'un côté il marque encore une fois sa différence avec Marine Le Pen.
Oui.
C'était aussi un des objectifs de son. De son discours, d'essayer de quand même rassembler de faire adhérer les électeurs de Marine Le Pen à son projet, mais en même temps de montrer à ses électeurs à lui qu'il ne fera pas la même chose, qu'il y a bien une différence entre deux.
Et pour cela, Emmanuel Macron s'est montré un peu fort avec ses spectateurs, avec les gens qui l'écoutaient. On va écouter un petit extrait où est-ce qu'il veut vraiment, on sent la détermination à réaliser son projet, vraiment.
Je ne céderai sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français. Rien ne sera concédé à la facilité ni au compromis. Rien n'affaiblira ma détermination. Rien ne me fera renoncer à défendre en tout temps et en tout lieu les intérêts supérieurs de la France.
Voilà, donc c'était l'extrait d'Emmanuel Macron qui a voulu vaincre son opposition. Vous en pensez quoi ?
Bah c'est cool.
D'accord, merci Sarah.
non mais je veux dire, après ça reste des paroles, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un discours. Il faut voir ce qu'il fait après. C'est oui. Toujours le plus important.
Mais là, est-ce que ça favorise un peu son image que de dire bon écoutez, l'opposition c'est pas grave, je vais quand même faire mon projet.
Bah forcément, s'il a été élu à l'unanimité, c'est ça qu'on dit ?
À peu près.
Bref. Merci. C'est que la plupart des personnes qui ont voté pour lui, j'espère, adhèrent à son projet. Donc, heureusement qu'ils veulent respecter. C'est rassurant.
C'est mieux de vouloir faire son programme parce qu'on sait qu'il ne le fera pas. Donc, au départ, s'il ne veut pas le faire, il ne le fera jamais.
Voici une vision très optimiste des choses.
Bah non, mais on le sait très bien. Les politiques, ils annoncent un programme, ils ne le font souvent pas. Ou pas en entier.
Ou parfois, ils ne peuvent pas.
Ou pas du tout.
C'est peut-être à cause de l'opposition aussi.
Donc là, à cause de l'opposition et des législatives, ouais. On revient sur le même sujet, faut qu'il ait une... Enfin, pas forcément la majorité, mais une grande partie des... Comment ils s'appellent les gens là ?
Parlementaires.
Voilà, les parlementaires qui adhèrent à son projet.
Mais aussi, je veux dire, son image en tant que président de la République, il doit représenter l'ensemble des Français. Est-ce que... Ça aurait pas mieux été s'il aurait fait des concessions dans son programme. S'il avait pas fait des concessions dans son programme, je ne sais pas.
Je pense pas, parce que on peut jamais, de toute façon, représenter l'ensemble des Français. C'est impossible.
On ne pourra jamais plaire à tout le monde.
On peut jamais plaire à tout le monde et on peut pas en une personne rassembler les idées de tous les Français. Donc, ça paraît logique de rassembler les idées de la majorité des Français. C'est à ça que ça sert les élections présidentielles. Et du coup, le fait qu'il respecte son projet, eh ben, il représente la majorité des Français, puisque la majorité des Français ont voté pour lui.
Après, ça là, c'est la première impression qu'il donne en tant que président. Et il faut qu'il montre qu'il est ferme avec ce qu'il veut, qu'il sait ce qu'il veut, qu'il va foncer droit au but et qu'il va pas changer à chaque fois que dès qu'il y a un problème.
Après, il fera des concessions, mais après, une fois qu'il sera vraiment dans le vif du sujet, et là, sur la base, il dit « je veux réaliser mon projet, c'est mieux ».
On a parlé de Macron et...
Quand tu t'en fous de ce que je dis.
Non, en fait, c'est juste qu'on doit aller très vite. C'est parce qu'en fait, il est bientôt là.
Tu vas alors vite ça.
Bah oui. Oh.
Ouais, qu'est-ce que t'attends?
Non, mais... annonce. Non, mais je vous jure.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
Merci. Merci Clémence.
Bon, t'annonces.
Je vais annoncer quand même. Je vais annoncer. Ça te dérange pas, Clémence? J'annonce ou.
On s'en va.
Merci Clémence.
Bon,
reprenons notre sérieux.
Oui.
On avait dit que Macron avait repris un peu les faits, les gestes de Mitterrand. Et il a repris encore ses prédécesseurs lors de son discours.
Tu peux répéter la question?
Les efforts de mes prédécesseurs en ce sens ont été remarquables et je veux ici les saluer. Je songe au général de Gaulle, qui œuvra pour redresser la France et lui rendre son rang dans le concert des nations. Je songe à Georges Pompidou, qui fit de notre pays une puissance industrielle majeure. À Valéry Giscard d'Estaing, qui sut faire entrer la France et sa société dans la modernité. À François Mitterrand, qui accompagna la réconciliation du rêve français et du rêve européen. À Jacques Chirac, nous donnant le rang d'une nation sachant dire non aux prétentions des va-t-en-guerre. À Nicolas Sarkozy, ne comptant pas son énergie pour résoudre la crise financière qui avait si violemment frappé le monde. Et je songe bien sûr à François Hollande, faisant œuvre de précurseur avec l'accord de Paris sur le climat et protégeant les Français dans un monde frappé par le terrorisme.
Voilà, on remercie Emmanuel Macron d'être
Merci.
Venu à PFM pour nous dire ça. Non, je plaisante, j'ai repris de France 2. Non, je plaisante.
Qu'est-ce qu'il est drôle.
Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui?
Tu peux recommencer à chanter, c'est bon, vas-y, je t'en prie.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah,
s'il te plaît, Clémence.
Donc, François, la question.
Oh, je peux répéter.
Non, reprenons notre sérieux, s'il vous plaît. Nous respirons.
Non mais franchement, heureusement qu'il y a des mecs sérieux ici, ouais, parce que là, ouais, les filles, c'est pas trop ça.
On est d'accord, Alexis,
ouais,
on est d'accord.
Ouais.
Il a parlé de...
Le
il a parlé
sérieux,
de...
c'est Simon, il dit rien.
Oui, voilà. Bonjour, Simon.
Bonjour.
Trois mots dans l'émission, trois fois bonjour. Je trouve ça sympa, les amis. Mais,
non, j'ai dit aussi les résultats...
Ah, il a dit les résultats.
De l'élection.
Mais soyez sympa avec lui, soyez indulgent, c'est ses premières émissions.
Ta question, balance.
Oui, et donc il a parlé de. Le président Macron a parlé de François Hollande. Vous en pensez quoi de son image de prédécesseur, de fils de Hollande?
Après.
Est-ce qu'il a raison de remercier Hollande et de.
Bah, de remercier Hollande, forcément, c'est lui qui l'a induit en politique. Du coup, forcément, il lui doit quelque chose. Mais le truc qu'il ne fait pas vraiment le plus paraître, c'est pas ça qui fait le plus paraître. J'ai encore oublié le mot. Successeur de Hollande, c'est pas vraiment son discours, c'est vraiment, par exemple, pour le 8 mai. Pour le 8 mai, quand Hollande arrêtait pas de le guider, de passer sa main dans son dos, de le présenter.
Oui.
Non, mais de le présenter aux gens.
Pas le petit tripotage.
Pas à la télévision. Non, franchement, on voit.
C'est sympa, les papouilles.
Attends, vas-y, tu peux rechanter, je t'en prie. Pour toi-même.
Je peux pas me le faire à moi-même.
Vas-y.
Bah oui, bah, elle m'a coupé, attends, oublié moi.
Alors, il y avait Hollande qui tripote Macron.
Oui. Oui, et qui le guidait dans tous ses mouvements. Et du coup, c'est là qu'il a vraiment paru successeur de Hollande. C'est pas vraiment son discours. Il a passé pas mal de temps à essayer de se détacher de cette image. Mais.
Quand même, lors de la passation, il a quand même passé 1h15 avec Hollande. On sait pas ce qu'ils se sont dit.
Des papouilles.
Bouffé.
Apparemment, ils se sont donné les codes nucléaires. C'est un peu différent. Mais...
Non, mais après, je veux dire, Hollande, c'était quand même le président juste avant Macron, du coup.
Non.
Je fais ça pour un truc. Non, mais du coup, c'est normal aussi qu'ils discutent, déjà parce qu'ils se connaissent personnellement, et aussi parce que bah, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est rassurant aussi, par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple vraiment.
Marine, elle lui aurait fait un gros fuck.
Marine, déjà, elle serait pas venue, hein, c'est comme avec ses arrestations et tout, elle serait pas venue.
Mais non, elle aurait dansé le zouk.
Dansé quoi?
Mais Clémence, tu l'as pas vu?
Dansé quoi?
Le soir du second tour, quand elle a perdu, après elle a dansé. Bref, on a parlé de François Hollande, il n'a pas annoncé qu'il allait arrêter complètement la politique. Vous
en pensez
quoi?
Il paraît qu'il peut pas, qu'il est passionné de politique et qu'il partira pas.
Voilà.
Mais
de toute façon,
vous pensez qu'il va quand même réussir à...
C'est mieux de rester sans dire qu'on va partir que de faire comme Sarkozy et de rester 15 ans quand même.
Ouais.
Ah bah s'il a dit, oui.
Il a dit je me retire de la vie politique, ouais mais je vais quand même reprendre le parti, ouais mais je vais quand même faire les primaires, ouais mais... Donc ouais c'est mieux qu'il annonce pas qu'il va partir s'il veut rester.
Donc Sarah ne dit rien mais elle a fait non.
Mais elle n'en pense pas moins.
Voilà. Tu as un avis Sarah?
Bah ouais.
Bah s'il te plaît dis-le, je sais pas.
Je sais pas si tu es digne de l'entendre. Tu fais les...
Sarah est d'humeur blagueuse aujourd'hui.
On s'en va les couilles, on s'en va les couilles, on s'en va les couilles. Ah
s'il te plaît Clémence. Et donc Sarah, Sarah m'avait dit non, François Hollande ne peut pas reprendre sa vie politique, c'est mort. Pourquoi?
Bah...
Je suis sûre qu'elle pense pas ça du tout. Non mais fais ce qu'il veut.
Honnêtement, je m'en fous en fait. Parce que de toute façon, il sera plus président. Ces gens vont pas voter pour lui aux prochaines élections. Du coup, qu'il reprenne sa vie politique ou pas, honnêtement.
Il pourra redevenir maire de Tulle.
Bah, cool. Faut voir avec les Tulliens, du coup, je sais pas ce que c'est. Bref.
Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Hein.
De rien, même si
c'est un plaisir.
Cette troisième partie était un peu. Comment?
Bordélique.
Chips.
Et donc on va se quitter avant que les blagues deviennent de plus en plus pourries. Oh ça va Clémence. Tu l'as mérité, non?
Prends pas ton air outré, c'est ta faute. Hein.
Merci beaucoup de nous avoir suivis sur PFM.
Bisous bisous.
Voilà, et donc En fait, elle traduit ce que je dis. Et donc, vous pouvez
adios
nous retrouver.
Amigos, on vous aime fort.
Merci. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, l'Actualiteam, ou sur notre site internet, actualiteam.jimbo.fr. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Salut.
Au revoir.